France Inter, franceinter.com. CO2 mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Claudine Lapersonne et Antoine Viossa à la technique et assisté de Jean-Christophe Pinaza et de Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Une petite humeur, allez, une petite humeur, car une semaine festive est faite d'ailleurs en tout genre, en commençant par la fête des mères demain. Et le dicton du jour, Saint-Moulinex, Saint-Éphale et Sainte-Grande Distribution font à Troyes le bonheur des fées du logis. Voilà, avec pour ceux d'entre vous qui ne croient pas forcément aux contes de fées, quelques extraits peut-être de notre vadémécum. « Ma petite maman, tu sais, les pesticides, ce n'est pas bon pour la planète. Alors, va des rétro Monsanto pour te débarrasser des mauvaises herbes du jardin. Je t'offre cette binette et cette jolie paire de gants. Sans oublier la recette du purin d'ortie et ce petit pot de savon noir apporté à Mère Grand pour traiter sans danger ces rosiers que les pucerons aiment tant. » Ça marche, excellent, hein, je signe vraiment, le savon noir, c'est très très bien. Pour le petit déjeuner, vous éviterez le grille-pain à l'électricité nucléaire, très mauvaise efficacité énergétique, qui réchauffe davantage la cuisine et les rivières que les tartines. Dans la catégorie « Je suis high-tech fashion victim, mais je me soigne », nous vous proposons la zapette universelle. Avec un seul bouton, vous éteignez toutes les télés de la maison, très efficace pour les économies d'énergie et pratique quand on veut faire venir à table les petits et les grands, allez à table. En attendant la fête des pères et la Coupe d'Europe de football, sur écran plat 116 cm bien sûr, des écoliers de Strasbourg ont entamé mardi un régime sans télévision, sans jeux vidéo, sans ordinateur, sans téléphone portable pendant 10 jours. Il paraît qu'ils sont encore vivants. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Ah oui, non, c'est des mutants, ils sont vivants. Et si à notre jolie maman, on lui offrait un poste de radio pour écouter la différence, hein ? Pendant ce temps, à Naples, eh bien, c'était une autre fête, c'était la fête aux ordures. Sauf que les feux de poubelle, les sacs plastiques éventrés dans les rues, ce n'est pas ce qui se fait de mieux pour attirer les touristes ou bien pousser la chansonnette sous le balcon des mamas napolitaines. Allô, allô, on me dit que le problème est réglé. Le cavaliere a fait donner l'armée pour nettoyer la ville de ces montagnes de détritus. Et aux dernières nouvelles, il ne reste plus que 50 000 tonnes de déchets éparpillés dans la région de Campanie. Mais que ça n'est pas un problème, on va s'en occuper plus tard pour une autre fête, la fête des parrains. Eh oui, bien sûr. Cette semaine, c'était aussi la fête des rois du pétrole partout dans le monde. Hein. Notons que le baril à 135 $ et c'est pas fini. C'est un espoir, entre guillemets, de guérison pour les intoxiqués du moteur à explosion, version voiture individuelle. Les accros des sauts de puce à bas coût ou de la classe à faire, des allers-retours en jet privé et autres. Allez, on se voit demain à New York. Avec une pensée quand même pour les marins pêcheurs, car si c'est la fête des mers, ce n'est pas la fête des poissons ni des marins qui sont pris entre le requin-marteau et l'enclume, des cours du gasoil qui flambent et les cours du marché à la criée qui piétinent, alors que les stocks de poissons surexploités, eux, fondent à vue de radar. Aussi, une question à Saint-Total et à Saint-Findus, dites-moi, lesquels gisements de pétrole ou océan viderons-nous les premiers ? Alors je vous l'ai dit, fête de la nature un petit peu partout en France, vraiment plus de 1000 manifestations. Tout ceci est relayé par nos amis de Terre Sauvage. Oui, on va rejoindre effectivement différents collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on ira à La Réunion, on ira dans les Calanques de Marseille. Et puis, bah, tenez, on va aussi prendre l'air avec un homme qui s'appelle Yves Berneron.
À partir du moment où on quitte la forêt, on arrive au pays de la lumière. Allez. On se rapproche des glaciers, le ciel est là tout près et la lumière est beaucoup plus intense. Et c'est justement, c'est le lien, c'est la rencontre entre la forêt et la lumière qui donne ce paysage extraordinaire.
Voilà, grande bouffée donc vraiment d'air. Et puis Jean-Pierre Raffin sera avec nous. Jean-Marie. Jean-Marie Pelt nous attend et va nous parler des petites écoles maternelles du côté de Metz. Et on va débuter grâce à Karl Vasseur par cette très jolie chanson Lonely Drifter. Karen, écoutez, c'est très bien.
Yes, that's what it is. And here we are now, far away from the city. Don't we look pretty? Wish I had a yoke. All I love, all I love, all I love, all I love. Wish I had a yoke. All I love, all I love, all I love, all I love. The roses came in early July. I knew I had to see you one more time. When all the fields are green, even though we know it's a passing time. 'Cause we will jump back on our trains to the city where we came from and wave
Fini la musique. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Vous ne connaissiez pas cette chanson?
Non, elle est belle.
Je sais, ça vous plaisait bien. Bon, alors là, c'est vraiment un sujet, je vais presque dire un petit peu les mains dans les poches, parce qu'on va parler de votre ville, qui est donc la ville de Metz, département numéro 57, nous sommes dans la Moselle. Et on va s'intéresser aux tout-petits, parce qu'il faut vraiment miser sur eux en matière d'environnement et d'écologie. Pour les plus anciens, bah tant pis. Mais parlez-nous de cette école maternelle, des écoles maternelles à Metz.
Il y a deux idées au départ de ces initiatives. La première idée, c'est ma réaction lorsque Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, expliquait un jour à la télévision qu'il fallait former les enfants tout petits à l'informatique. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire, parce que je constate que tous les enfants, sans aucune exception, bricolent les engins comme nous ne sommes pas capables de le faire. Ça leur pose aucun problème du tout.
C'est ils peignent dedans, à condition bien sûr d'en avoir un.
Absolument. C'est leur quotidien.
Ouais, c'est la fracture informatique, sinon.
Tout à fait. Par contre, deuxième remarque, je ne suis pas sûr qu'ils baignent dans la nature. Non. Ça, c'est une autre question. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père avec un grand jardin qui, tout petit, quand je sortais de la maternelle, m'apprenait comment poussent les petits pois et les haricots et les roses et me racontait de magnifiques histoires sur les plantes. Et je me suis dit, malheureusement, les petits urbains n'ont pas cette chance-là.
À part qu'il a quand même fallu que vous attendiez 35 ans pour comprendre que les enfants ne naissaient pas forcément dans les choux. Ça, c'était le...
Il m'a fallu plus de temps que ça pour le plus comprendre. De temps, oui, j'ai été plutôt retardé. Ben, oui. Alors, je me suis dit, ça serait bien que très très tôt, les enfants soient dans un jardin et que ce qu'on appelle le jardin d'enfants, c'est-à-dire la maternelle, soit un jardin pour les enfants. Et alors nous avons lancé cette idée dans le cadre de la ville de Metz, qui a développé un grand programme pour mettre en place à côté de chacune des 41 écoles maternelles de la ville un petit jardin, et qui a détaché du service des espaces verts des jardiniers pour s'occuper avec les petits-enfants de ces jardins. Et donc, les petits-enfants, avec le jardinier, qui est donc l'homologue de ce qu'était mon grand-père, plantent dans le petit maternel des fleurs, des graines, voient pousser des graines. Et tout petit, tous ces petits urbains comprennent comment fonctionne la nature. Ils sont très très fiers de leur jardin. Alors, ce n'est pas très facile à faire, parce qu'à l'époque où les plantes poussent, ils sont tous en vacances. Hein, c'est l'été. Bien sûr, oui. Alors il faut faire des stratégies subtiles pour planter des tomates qui seront rouges avant les vacances et des citrouilles qui seront bien orangées après les vacances.
Oui, bah vous plantez des légumes OGM, c'est ce qu'on m'a dit. Okay.
Et alors, les gens des espaces verts s'organisent avec les gardiens, les concierges des écoles maternelles pour que pendant les vacances, les concierges participent aussi. Oui. Et puis les enseignants participent aussi tous.
Ça ne leur fait pas de mal.
Ils sont tous engagés dans ce projet. Et puis, il y a un concours annuel où les plus beaux jardins sont primés. Et on a vu tout récemment 3 adjoints descendre sur le terrain formant un jury de concours. C'était très impressionnant pour désigner les maternelles les plus performantes, voilà. Oui. Les plus innovantes, les plus excellentes. Je prends tous les mots modernes, les plus compétitives.
Bien sûr. Voilà. C'est peut-être pas aussi bien, si vous voulez, que d'inaugurer un nouveau rond-point, oui. mais quand même.
C'est bien quand même. Alors ça, c'est une partie de ce qui se fait. Maintenant, il se fait une autre chose. C'est que l'Institut européen d'écologie,
que vous présidez,
mis en place un projet pour qu'on aille raconter des histoires aux petits-enfants des maternelles. Alors l'histoire, c'est l'histoire du petit Jean et de son grand-père. C'est-à-dire, c'est mon histoire à moi. Cette histoire, nous l'avons écrite avec un de mes collaborateurs et très proche ami, Franck Stéphane, et nous deux, nous avons écrit ensemble l'histoire. Alors c'est une très belle histoire, je crois, parce que les petits-enfants l'aiment bien. Nous avons inventé un jardin, nous avons inventé un grand-père, un petit Jean, ce sont des marionnettes, et puis nous avons inventé des petits personnages qui s'appellent les biosons, qui sont cachés dans le jardin, et que seul le petit Jean connaît. Alors les biosons, ils savent comment marche le jardin, et ils l'expliquent au petit Jean, et le grand secret du petit Jean, c'est qu'il est le seul à savoir qu'il y avait ces petits êtres dans le jardin. Et un jour, alors il se passe quelque chose de terrifiant, il y a un monstre, un dragon, qui arrive près du jardin. Alors il a deux gros yeux, les biosons ont très très peur, et ils courent voir le petit Jean en disant « il y a un monstre qui vient, c'est un bulldozer ». C'est parce que le grand-père est fatigué, ne peut plus faire le jardin, et l'a revendu à une entreprise de promotion pour y faire des constructions, et les biosons vont tous mourir. Alors le petit Jean explique au grand-père qu'en réalité dans le jardin, il y a des petits êtres qui connaissent bien les plantes et qui expliquent comment fonctionnent les plantes aux enfants, comme lui, petit Jean, a compris comment elles fonctionnent. Et alors le grand-père dit, eh bien, si il m'aide, eh bien, je vais garder le jardin et je vais continuer à le faire avec vous. Alors on leur explique ça en 3 séances de marionnettes. Mmh. Alors les enfants en redemandent. Et puis les mères en redemandent aussi, parce que les mères, ils sont très preneurs de ce projet. Et l'éducation nationale nous a beaucoup soutenus dans ce projet, à une condition. Oui. C'est qu'il n'y ait pas seulement du merveilleux, c'est ce que je viens de raconter, mais qu'il y ait aussi une acquisition de savoir.
Et toujours, ça c'est normal. C'est
très important. Alors, comme ils vont 3 fois, nos jeunes, dans les écoles, on a formé les jeunes pour qu'ils aillent dans les écoles, comme ils y font 3 fois, la première fois, ils vont montrer que les plantes, elles vivent comme nous, que ce sont des êtres vivants, que par exemple, elles ont soif. Alors, ils mettent des plantes dans de l'encre, puis on voit la fleur qui petit à petit commence à changer de couleur parce que l'encre est montée jusqu'à la fleur. La deuxième fois, ils mettent des légumes qui vont germer, ils mettent des pommes de terre, alors ils voient que les plantes, elles ont de la croissance. La troisième fois, ils mettent des plantes dans du plastique, ils voient qu'elles transpirent, alors les plantes transpirent. Les plantes, elles ont de la croissance, et les plantes, elles boivent. Donc les plantes, elles sont comme nous. Alors ça, ça a plu à l'éducation nationale. Moi, je n'avais pas l'idée de le faire, mais c'est eux qui m'ont demandé de le faire.
Mais Jean-Marie, en tout cas, derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même une éducation, on entend bien, à la nature, à l'environnement, c'est,
oui,
ça, c'est ça. Là, on parlait de graines, bah, effectivement, elles germent dans le cerveau des petits. Quoi.
Voilà, voilà. Et il faut commencer petit parce que je crois que ce qu'on n'acquiert pas petit, on ne l'acquiert pratiquement plus jamais. Et les pauvres enfants qui n'acquièrent rien quand ils sont petits, parce qu'ils ne reçoivent rien, sont pauvres. Et je pense que c'était normal qu'une association comme la nôtre, qui est engagée dans des affaires internationales, soit aussi très présente sur le terreau local, et Metz, c'est ma ville.
J'avais vu passer un petit sondage qui disait qu'un enfant de 10 ans connaissait à peu près une douzaine de marques de bagnoles et connaissait 3 noms de fleurs, pas plus.
C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est plus le cas. Bon. À Metz, c'est pas le cas.
Écoutez, c'est bien, vous m'avez, là j'ai gagné 40 ans d'un coup, j'étais sur vos genoux, j'avais 5 ans, c'est formidable. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Et oncle Jean-Marie nous racontera une nouvelle histoire.
Au revoir Jean-Marie. Au revoir Denis, au revoir à tous.
C'est une recette du pays. Ça s'appelle la fouille.
La fouille.
Et c'est quoi qu'il y a dedans là?
C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Puis il y a les coins aussi.
C'est quoi les petits trucs blancs maintenant?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
William Scheller sur France Inter, les millions de singes, et nous aussi on s'interroge sur ce monde, de quoi sera-t-il fait demain, et on va prendre de la hauteur pour cela à travers ce reportage. Bonjour Yves Bernoron.
Bonjour Denis.
Yves, nous sommes, j'allais dire chez vous parce que nous sommes en Haute-Maurienne, au-dessus de Bramant. On a dépassé une très jolie vallée, on est parti du Planet, puis là on est dans cette vallée où on voit une montagne qui est assez jolie, qui s'appelle le Bec des Taches, et derrière c'est donc l'Italie. On est dans une zone tout à fait intéressante d'un point de vue écosystème. On est à la rupture entre les derniers arbres et puis le minéral qui s'empare de la montagne.
Oui, c'est une des zones les plus extraordinaires de la vie des arbres, puisque c'est les derniers arbres en altitude, une zone qu'on appelle la zone de combat, où arbres comme les fleurs d'ailleurs, comme les herbes, vont devoir se battre, lutter contre des éléments autour d'eux qui sont terriblement difficiles.
Oui, vous allez voir, vous allez respirer, je dis bien voir, parce que notre boulot, c'est aussi de fabriquer des images pour fêter la nature en montagne. Aujourd'hui, fête de la nature un petit peu partout, en plaine, à la campagne, dans les forêts, au bord de la mer, et bien à la montagne, direction la Haute-Maurienne. On a laissé Modane, on avance dans ce très beau département de la Savoie. Vous avez trois villages qui s'appellent Solières, Sardières, Termignon et Bramant. Et on grimpe sur la droite, tranquillement, en direction de l'Italie. On va rejoindre donc le sentier dans le vallon des Étaches, dans une forêt resplendissante. Et Yves Bernoron, qui est un homme qui intervient régulièrement dans cette émission, parce que c'est un formidable raconteur du monde végétal, est un homme qui a permis à cette vallée de se développer. Alors aujourd'hui, c'est vrai que son cœur est un peu triste lorsqu'il voit la promotion immobilière du côté de Valsoni, qui est assez outrancière et qui transforme les communes gentiment en banlieue au fur et à mesure, alors que la première richesse, c'est la nature. Et c'est vraiment cet écrin superbe. Donc cet homme qui a une formation de forestier, qui est naturaliste, a toujours une vision, je dirais, dictée par l'harmonie de l'écrin dans lequel nous évoluons. Et donc, en fermant les yeux, tranquillement, il va nous raconter ce qu'est ce qu'on appelle cette zone de combat.
Ici, dans cette haute vallée des Taches, il n'y a plus qu'à cette altitude de la Rolle et du Mélèze.
Ah, d'accord.
Mais on peut trouver à la même altitude, mais dans la grande vallée, une vallée moins soumise au vent que celle-ci, de l'épicéa aussi.
Et là, c'est vraiment effectivement une zone de rupture, parce qu'on voit bien que ce sont peut-être les plus combatifs qui s'en sortent, et ils sont modelés, ces arbres, à la fois par le vent, à la fois par la neige. Les ennemis sont là, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont si beaux et si accueillants en même temps, parce qu'ils ont lutté toute leur vie, on le voit bien, ils se mettent à l'abri des gros rochers, sur le bord des ravins pour ne pas être bousculés par les avalanches en fond de ravin. Ils ont choisi leur endroit pour vivre, ils ne sont pas implantés n'importe où, mais ils ont surtout des formes extraordinaires. C'est la forme de la lutte. Ils se sont arrondis contre le vent. Ils se sont courbés sous l'avalanche. Souvent, ils ont été brisés, ont dû refaire une pointe, puis deux autres encore pour essayer de survivre. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça donne un paysage d'un accueil merveilleux. Là, les arbres parlent.
Les arbres parlent, Yves Bernoron. Je ne vais pas vous demander ce qu'ils vous disent, parce que ça, c'est peut-être un petit peu un secret, mais pourquoi vous aimez, vous, beaucoup ce lieu ici? Enfin, parce que vous êtes un homme de la forêt, mais en fait, vous m'aviez confié que vous aimiez beaucoup sortir de la forêt pour arriver sur à la fois ces clairières et puis ces derniers arbres.
Oui, parce qu'à partir du moment où on quitte la forêt, on arrive au pays de la lumière.
Ouais.
On se rapproche des glaciers, le ciel est là tout près, et la lumière est beaucoup plus intense. Et c'est justement, c'est le lien, c'est la rencontre entre la forêt et la lumière qui donne ce paysage extraordinaire. Et on y est bien, on y est très très bien. Il y a à la fois la lumière, mais il y a encore les arbres. On est accompagné Hein, nous autres hommes, fragiles, on est encore accompagnés par les arbres sur ce chemin qui mène vers la haute montagne.
Alors pour vous, c'est plus que des végétaux qui vont se nourrir de lumière, quoi. C'est quoi? C'est des pourvoyeurs de l'histoire aussi, ces arbres?
Oui, certainement. Les arbres ont une mémoire. Ils ont vu passer tant de générations d'hommes. Ils ont la mémoire des choses de la nature. Ils ont la mémoire des avalanches. Ils ont la mémoire des grandes tempêtes de vent. Ils racontent tout ça. Il suffit de s'arrêter près d'eux. Il suffit de les regarder comme des êtres et non pas comme des choses qui ont été produites tout simplement par la terre. Et là, ça devient tout à fait extraordinaire.
Que nous raconte Yves Bernoron ce paysage? Bon, il y a ce qu'on appelle l'Adret et l'Ubac. On ne parle pas d'Adret et l'Ubac ici. Hein.
Non, on parle d'Adroit et d'Anvers.
Voilà. Ouais. Bah, l'Adroit, c'est l'endroit du soleil.
Les endroits les plus ensoleillés, ouais. Très secs. Et l'exemple est flagrant ici. Hein. On a tout ce versant en face de nous qui est l'Adroit, balayé par les avalanches, où la neige ne tient pas, où l'humidité est moindre. Et il n'y a pas, presque pas un seul arbre. Ouais. Et d'un seul coup de ce côté, la forêt s'installe.
Elle est attirée par une marmotte, là.
Ah oui, elles sont toujours là, très présentes. Les commères de la montagne, ces bêtes merveilleuses, là, qui ont réussi, elles aussi. Merveilleuses bêtes qui ont réussi à passer l'hiver. Il y a 3-4 mètres de neige à l'endroit où on est ici l'hiver. Que mangerait-elle? Rien, elle ne peut pas, avec ses petites pattes. Elle a trouvé le moyen, elle s'enterre, 3-4 mètres sous terre, pour passer l'hiver, 6 mois de sommeil. Ouais. C'est fantastique.
Alors donc on a l'Adret et puis donc l'Ubac sur lequel on est.
Et l'Ubac, oui, qui est un versant plus nord, donc beaucoup plus humide, qui garde la neige, hein, qui a moins de soleil, donc beaucoup plus favorable à la végétation forestière. On sait bien que les arbres ont besoin d'énormément d'humidité, on sait qu'ils pompent énormément d'eau pour pouvoir vivre, ils ont besoin des versants nord.
Alors, il y a aussi les bêtes, hein. Il y a aussi quand même quelques hommes qui y vivent, parce que donc il y a un alpage qui n'est pas très très loin. On voit et on entend donc ces vaches qui sont là. Et puis on redescend évidemment vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre, à peu près en bas dans la vallée ou...
Ah non, ici les bêtes ne resteront pas après le 15 octobre. Hein. Ouais. C'est vraiment la limite la plus extrême dans le meilleur cas de beau temps d'automne. 15 octobre. Sinon les bêtes quittent généralement cette altitude fin septembre.
On est entre 2000 mètres, à peu près 1950 mètres, on va dire.
Et oui, entre 1950 et 2400 mètres d'altitude. Les derniers arbres, il y a encore quelques arbres qui s'accrochent jusqu'à 2500, 2600 mètres parfois, qui ont pris une allure étrange pour pouvoir lutter contre cette rudesse de là-haut, ouais. Mais qui sont encore présents, mais c'est extrêmement rare. Les derniers arbres, 2400 mètres, c'est limite.
Si on se retourne, c'est vrai que c'est le royaume du minéral. Il reste quoi? Quelques fleurs encore aussi, un peu là-haut?
Quelques fleurs, quelques petites bandes d'aulne vert encore, accrochées au creux des vallons, là où il y a encore un peu d'eau, où la neige reste plus longtemps, des aulnes vert. Et puis une herbe de plus en plus rase qui monte vers l'altitude, qui donne encore des pâturages assez extraordinaires, jusqu'à 2700 mètres d'altitude, où vont paître nos troupeaux de moutons.
Et alors bien sûr, au-dessus, les glaciers, et j'ai presque dire ce qu'il en reste, parce que là c'est une réalité quand même, c'est-à-dire que vous voyez, vous, à vue d'œil, fondre ces glaciers, un peu plus loin, dans un autre coin de la Haute-Maurienne, il y a le glacier des Évêtes, où vous avez donc cette rivière, donc qui est l'Arc qui prend, on va dire, sa source. Mais là aussi, on voit plein de cascades. Comment vont-elles être alimentées plus tard? C'est un peu la question.
Oui, c'est terrible parce qu'on voit ces glaciers disparaître les uns après les autres, ou s'amenuiser d'une manière inquiétante. On sait bien que les glaciers sont les dernières grandes ressources en eau pour nos vallées. C'est terriblement inquiétant. Mais on manque de neige au mois de novembre-décembre. C'est cette neige qui conforte les glaciers, qui les empêche de fondre. Je crois que c'est une des grandes raisons qui font que les glaciers disparaissent. Et puis bien sûr aussi des températures estivales beaucoup trop élevées.
Vous faites un petit coucou à notre ami alpagiste.
L'alpagiste, pas l'alpiniste, qui est là. Ah, il faut être un petit peu alpiniste. Hein, quand on voit où il conduit son troupeau de moutons là-haut, voilà. Il ne faut pas avoir peur du vide, hein, c'est clair. Hein,
ouais,
c'est
et puis il faut avoir un chien de compagnie qui fait le boulot. Hein, aussi.
Il faut des bons chiens pour garder ses troupeaux, soit garder les troupeaux, soit les défendre.
Alors là, quand on va redescendre, on va être tout de suite dans un autre univers qui est celui vraiment de la forêt, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça, on va être envahi par la forêt en l'espace quoi, de 400-500 mètres, parce qu'on est vraiment à la rupture de ces, ces deux zones.
En altitude, il suffit de descendre de 250 ou 300 mètres pour retrouver une forêt dense, la forêt normale de montagne. Ça va très très vite, oui.
On fait attention parce qu'on est en train de marcher sur un jardin botanique de toute beauté.
Ah oui.
Il y en a partout.
Oui, vous voyez des jaunes, des blanches, des violettes, des bleus, des roses. Tout y est. Avec ce fond de rhododendron permanent là, à cette altitude qui explose à cette époque de lumière, de couleurs. Tout est rose, rouge de rhododendron.
À chaque fois, il y a une, je pourrais dire qu'il y a presque une histoire lorsque l'on voit ces couloirs d'avalanche, qui ne rapportent rien d'ailleurs effectivement ni à l'homme ni à la nature, hein, qui est plutôt une briseuse de vie qu'autre chose. Et puis il y a quoi ? Il y a aussi donc ces arbres qui sont capables de pousser presque sur des anfractuosités, c'est-à-dire que c'est une fois de plus le génie de la nature qui est mis en avant.
Tout à fait, oui. J'ai l'habitude de dire que les arbres ou les herbes ont la force de la vie pleinement. Ils sont capables de s'accrocher aux rochers. Regardez, il y a un arbre qui pousse là sur ce flanc de rocher. Il n'y a rien à manger. Un petit peu de poussière, l'eau de quelques gouttes d'eau d'été, l'eau de fonte de neige de printemps, une graine était là. Elle y est née, elle s'y accroche, elle est capable de survivre. Elle fera un arbre qui sera plus proche d'un bonsaï que d'un arbre, mais qui dans 100 ans, 200 ans sera toujours là. Ça, c'est la force de vie des arbres qui est fabuleuse, qui est un véritable exemple. Si c'est une zone de combat pour les arbres, c'est une zone de paix et de grande sérénité pour les hommes.
Vous voyez, pour fêter donc cette nature, je crois que là il y avait immersion et Jean-Pierre Rapfin qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Denis, tout le monde.
Vous écoutiez avec, vous aussi, parce que vous êtes un amoureux de la montagne.
Un amoureux de la montagne et surtout de ces zones extrêmes qui sont vraiment les derniers endroits où on voit que la vie se bat. Pour rester, et les zones de combat décrites me rappellent certains sommets des Hautes-Alpes, le bois des Ailes, où il y a une forêt de pins cimbreaux extraordinaire, où les graines sont apportées par des casse-noix qui arrivent à germer dans des conditions entre des rochers et à se défendre et à pousser, à donner des arbres qui ont plusieurs centaines d'années, qui sont complètement tordus, des sculptures extraordinaires et qui restent. Et il y a effectivement cette sérénité. En même temps, c'est cette lutte perpétuelle et cette sérénité de la résistance. Ce sont des endroits magnifiques en montagne.
Et là aussi, puisque vous parlez de cet oiseau qui est le casse-noix moucheté et donc de cet arbre, le pin cimbreau, ils sont extrêmement liés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une véritable coopération entre les deux.
Exactement, car le casse-noix est celui qui permet la dissémination des graines de pin cimbreau un peu partout sur les versants montagnards où pousse cet arbre.
Alors, on est ravis de vous retrouver parce que je rappelle que vous êtes un ancien professeur d'écologie, donc à Paris 7, vous êtes un compagnon de CO2 Mon Amour depuis le début, ancien président de France Nature Environnement, et donc avec vous dans quelques instants, mais on va continuer, on va poursuivre cette balade dans la nature et donc fêter cette fête de la nature aujourd'hui. We'll be right back. C'était Marvin Gaye, toujours sur France Inter, CO2 Mon Amour avec Jean-Pierre Raffin pour poursuivre cette fête de la nature donc, qui a lieu vraiment tout ce week-end, organisé par le Comité français de l'Union mondiale pour la nature, par nos amis de Terre Sauvage, donc avec ce numéro assez exceptionnel du mois de mai. Sont associés alors aussi bien l'ONF, le Conservatoire du Littoral, les parcs nationaux, les parcs régionaux, la Ligue pour la protection de la nature. Enfin, j'en oublie, sinon le catalogue va être trop long. Jean-Pierre Raffin, on se rend compte que les avancées de la nature quand même ne vont pas de soi. Là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais quand même, rappelez-nous un peu les origines de cette fête de la nature.
Les origines de cette fête de la nature, c'est de manière un peu lointaine, c'est tout d'abord le vote de la loi sur la protection de la nature en 1976, qui résultait d'un travail farouche des associations fédérées à France Nature Environnement qui se sont battues pendant près de 8 ans, car on parlait de cette loi depuis 1968, pour qu'il y ait enfin une loi qui assure les moyens de protection de notre patrimoine naturel, aussi bien dans le domaine de la flore que de la faune.
Et donc, avant, il n'y avait rien.
D'accord. Avant, il existait des législations sur la pêche, sur la chasse, mais pour tout ce qui était le reste du patrimoine naturel, il n'y avait aucun texte, ce qui fait que la France servait souvent de terrain de safari pour des collectionneurs qui, connaissant bien les espèces rares, venaient piller impunément en France. Ah. Donc on s'est battu pour qu'il y ait une loi, on s'est battu aussi à l'occasion de la loi de 76 pour que dans les projets d'aménagement, on tienne compte de la diversité biologique, et on voit ressurgir cette vieille idée avec le Grenelle de l'environnement, où le président de la République a annoncé qu'à partir de maintenant, il y aurait une véritable évaluation de l'impact sur la diversité biologique des projets d'aménagement, etc. Ce qui montre que même si on avait commencé à obtenir cela, entre la loi et l'application, il y a quelquefois un sérieux hiatus, et la loi de 67 est un bon exemple, car elle prévoyait à la demande du Parlement, car le gouvernement n'en voulait pas, enfin tout au moins certains ministres, l'étude d'impact, c'est-à-dire une étude qui évaluait quel était l'impact sur la diversité biologique de tel ou tel projet. Or, ça ne plaisait pas à des ministères comme le ministère de l'Industrie, de la Recherche, des Transports, de l'Agriculture, qui ont réussi à détourner la loi, c'est-à-dire à détourner la volonté du législateur en renvoyant l'étude d'impact, non pas au début de la procédure de décision, mais enfin au moment de l'enquête publique, c'est-à-dire en gros quand tout est bouclé, quand le projet est bouclé. Et on a eu beaucoup de plaisir à voir que le président de la République, lors de son discours de l'après-Grenelle, a dit que à partir de maintenant, très schématiquement, il n'était peut-être pas au courant, bah on allait appliquer la loi de 76.
Ah oui.
C'est pour montrer que quelquefois, entre le vote d'une loi et son application, il peut se dérouler beaucoup de temps. Autre exemple, la loi Littoral. Il y avait un décret normalement qui devait s'appliquer aux zones d'estuaire et il a fallu 18 ans de bagarre de France Nature Environnement avec recours au Conseil d'État, etc. Je passe les détails, pour qu'il y ait un décret permettant que l'on applique la loi Littorale sur les estuaires. Donc, si vous voulez, les lois, ça n'est qu'un élément dans une stratégie du long terme pour obtenir une réelle protection, une réelle prise en compte de la diversité.
Alors, il y a la loi, donc, ça c'est le Parlement, et puis après, il y a les fameux décrets d'application, qui ne relèvent pas du Parlement.
Qui ne relèvent pas du Parlement, qui se prennent sans aucun contrôle du Parlement, ça résulte de la notre constitution qui sépare l'exécutif du législatif. Et très souvent, il y a des détournements de la loi entre la loi telle qu'elle est votée par le législateur et les décrets d'application qui résultent de négociations entre services ministériels. Et on s'aperçoit que certains ministères ont plus de poids que d'autres et que les décrets ne correspondent pas toujours aux lois. C'est pas unique dans le cadre du... ça ne concerne pas uniquement le patrimoine naturel. Il y a une étude qui a été publiée en 2006 montrant que 222 lois votées depuis 1981 étaient inapplicables et inappliquées faute de décrets d'application, notamment parce que certaines administrations n'en voulaient pas.
Oui.
Et un parlementaire de la majorité a dit de toute façon, ça ne sert à rien de voter des lois si l'administration ne suit pas. C'est aussi une réalité de fonctionnement de notre machine.
Alors, avant de partir à la Réunion, tout à l'heure nous entendions Yves Bernoron en voyant donc ces glaciers qui étaient en train de fondre. Je tiens à signaler que la Palme d'Or 2008 du dérèglement climatique a été remise donc, par le réseau Action Climat, par Greenpeace, les Amis de la Terre et Agir pour l'Environnement, à Renault pour son premier 4x4 Coléos, qui a été rebaptisé CO2, donc Coléos. Donc un véhicule qui sera fabriqué en Corée, qui rejettera 209 grammes de CO2. Ils espèrent en vendre donc 100 000 à peu près par an, ce qui fait que l'impact, ce sera 300 000 tonnes de CO2. Bon, alors je sais qu'en même temps, c'est facile de pointer là-dessus, parce qu'on a quand même des comportements les uns les autres qui ne sont pas vertueux, et que ce n'est pas simplement ce fameux 4x4 donc, qui va dérégler totalement le climat. Mais quand même, c'est-à-dire que on sent que de toute façon, on avance, on s'en fout, il y a un marché et carpe diem. Quoi,
ça montre souvent l'incohérence d'un certain nombre de politiques qui résonnent indépendamment les unes des autres.
C'est ça.
Et qu'au moment où on adopte les conclusions du Grenelle de l'environnement, où on se dit on va s'efforcer de produire des véhicules moins polluants, et bien parallèlement, totalement indépendant des industries, se lancent dans la fabrication de véhicules plus polluants. C'est aussi un trait de notre société qui zappe de point en point sans faire la cohérence entre toutes les décisions.
Alors je sais qu'il y a une île qui aime bien les voitures, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais on ne va pas vraiment parler des voitures qui sont sur la côte avec vous, Herman Thomas, parce que là nous sommes avec vous à La Réunion. Bonjour Herman.
Bonjour.
Eh ben, je suis ravi parce que là, vraiment, nous sommes en direct. Donc, il doit être à peu près 16h, me semble-t-il, un peu plus de 16h donc, ouais. donc chez vous. Et on est donc à 10 000 km. On est au nord de l'île, dans la commune de Saint-Denis et de la Possession. Et donc, ouais. Vous faites partie de ces accompagnateurs. Vous fêtez la nature, vous aussi, chez vous, à La Réunion. Dans une réserve qui s'appelle La Roche Écrite. Alors, racontez-nous ce que vous avez autour de vous. Et vous n'êtes pas seul.
Non, mais on n'est pas seul. Hein. Ben, on participe à la fête de la nature. Hein. Donc, on organise sur la réserve aujourd'hui une visite. Donc, ça se termine, hein, puisque comme vous l'avez dit, il est 16h, 16h et des poussières. On a eu 22 personnes. Donc, on a profité pour faire découvrir les richesses de la réserve. En particulier, un oiseau qui n'existe nulle part ailleurs, uniquement sur la réserve naturelle de la Roche Écrite, le tuituit.
Le tuituit.
Le tuituit. On l'appelle tuituit parce que son chant est très particulier.
Ouais.
Il fait des tuit-tuit répétés plusieurs fois, d'où son nom tuituit. Hein.
Alors là, nous sommes, c'est vraiment l'automne. Il faut bien comprendre qu'actuellement, bien sûr, les saisons sont inversées. Et donc, ce sera bientôt l'hiver. Ce qui veut dire que lorsque l'on se retrouve là, je sais que vous êtes à peu près à 1500 mètres d'altitude, mais quand on est à 2002, il fait froid là-haut. Hein, donc.
Justement, on était en train de préparer l'accueil des visiteurs. Donc, on a passé la nuit là-haut et la température est descendue autour de 3-4 degrés.
Oui.
Il y a quelques temps de ça, il a neigé. C'est exceptionnel. Et donc là, si par exemple, vous venez en cette saison, vous serez accueillis par quelques oiseaux hein, encore actifs. Et puis surtout, c'est la saison des fruits, puisque les fleurs, ça se termine. Ouais. Donc là, vous aurez une multicolore au niveau des fruits.
Alors, je vais peut-être venir, moi, si vous voulez, au moment de l'été réunionnais, hein, c'est-à-dire décembre, janvier, février, ce sera pas mal. Si votre portable nous le permet un tout petit peu encore, dites-nous ce qu'est la forêt des bois de couleur, parce que vous y êtes, il y a la forêt des bois de couleur d'un côté, et puis aussi la forêt des brouillards. Pourquoi on les appelle comme ça ?
couleurs. Pourquoi, son nom l'indique, à l'intérieur, quand vous rentrez, vous êtes accueilli par une multitude de couleurs, aussi bien au niveau du feuillage que quand c'est la saison des fleurs, bien entendu, avec la couleur des fleurs, hein, jaune, blanche, jaune, mauve, hein, on a même des couleurs mauves.
Et voilà.
On a surtout des fougères arborescentes, ouais. Donc ce qui est relativement intéressant. Et puis la forêt de brouillard, parce que on est en altitude, le brouillard tombe très vite, et puis ça donne une ambiance et une humidité très 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 particulière. Mmh. Et il y a beaucoup de pays qui nous envient, hein, puisque on est dans l'océan Indien, un des îles qui culmine à plus de 3000 mètres. Et la réserve naturelle de la Roche Équipe, c'est 2277 mètres. Vous voyez bien, l'effet brouillard est très, très, très important et ça permet à certaines espèces, en particulier les fougères et les orchidées, d'être très abondants.
Eh bien, merci beaucoup, Herman. Merci à vous donc d'avoir servi de guide donc à la fois pour cette fête de la nature et puis aussi pour les auditeurs de CO2 Mon Amour. Donc, on comprend qu'actuellement donc toute la végétation est au repos, hein, là-bas. Et puis on va partir dans les calanques. Dans 5 minutes, mais peut-être auparavant, Jean-Pierre Raffin, avec un oiseau d'ailleurs qui est aussi migrateur. Parlez-nous un peu de l'hirondelle, parce que je sais que vous l'aimez bien, cette fameuse hirondelle.
Ah, je l'aime bien, d'autant plus qu'en arrivant dans le studio, j'ai eu le plaisir de voir que des hirondelles de fenêtre étaient en train de nicher sous une corniche en face de la maison de la radio, un immeuble. Et je dirais, ça fait plaisir lorsqu'on voit dans certains endroits de nos villes que l'on pense totalement dépourvues de diversité biologique, et bien que ça et là, il reste des colonies d'hirondelles de fenêtres. Il y en a une au Carrousel, l'Arc du Carrousel au Louvre, il y en a ça et là en Paris, et ça fait plaisir de voir de la nature en ville. Et souvent, il faut très peu de choses pour permettre à cette nature de se maintenir. Par exemple, une rue où il y a encore des pavés, quand vous regardez entre les pavés, ce mince liseré vert de la végétation qui arrive à se maintenir, c'est formidable par rapport à un endroit. Alors évidemment, je comprends que pour le bruit, les pavés, c'est moins bien que le goudron, mais pour laisser un peu de flore, pour laisser quelques plantes sur un mur qui se dégrade un peu, eh bien, ça, on voit la puissance. Ça rejoint d'ailleurs ce que l'on disait tout à l'heure avec les zones de combat. On voit la puissance de la vie qui arrive à se maintenir, à résister, à s'installer, même quand, quelquefois lorsque les conditions sont très défavorables.
Alors parmi les hirondelles que l'on connaît, il y a donc l'hirondelle de fenêtre.
L'hirondelle de fenêtre, c'est celle qu'on voit à Paris, c'est la citadine. Bon, en milieu rural, vous avez l'hirondelle rustique qui était ce qu'on appelait autrefois l'hirondelle de cheminée, celle avec les grands filets de la queue vivement colorée. Ouais. C'est une très belle hirondelle, mais là qu'on ne voit pas en ville, que l'on voit à la campagne. Bon, les hirondelles rousselines, les hirondelles des rochers, enfin, il y a tout un patrimoine d'hirondelles, mais hors milieu urbain.
Et alors, de grâce, ne saccagez pas les nids, parce que très souvent, c'est ce que l'on fait, on se dit, ah bah oui, ça va souiller ma voiture, enfin non, je résume à gros traits.
C'est plutôt lors des opérations de ravalement,
voilà, et de rénovation,
qu'il y a une tentation, enfin une tentative d'éliminer, parce que ça fait des saletés, alors qu'on peut mettre une planchette, etc., en dessous, il y a moyen de faire autrement. C'est comme pour les martinets, qui ont quand même des colonies qui diminue un petit peu en ville, non pas que l'homme soit agressif vis-à-vis d'eux, mais simplement parce que les nouveaux immeubles n'ont plus cette mince espace entre le comble et le mur où les martinets s'installaient. Et au fur et à mesure qu'on rénove le bâti, qu'on transforme des immeubles anciens ou qu'on construit de nouveaux immeubles, si on ne laisse pas cette mince place, les martinets ne pourront plus nicher.
Alors ce que je vous propose, je ne sais pas s'il y a des martinets là-bas, mais on va partir du côté des calanques de Marseille pour rejoindre James Gourrier. Bonjour James.
Bonjour.
D'abord, je suis ravi de vous avoir au téléphone parce que vous êtes aussi, je tiens à le dire, indépendamment de votre travail à l'ONF, de guide accompagnateur pendant que vous vous installez tranquillement, vous êtes aussi quelqu'un qui écrivait vraiment et très très bien pour les livres de jeunesse. Depuis de très nombreuses années, on vous doit un certain nombre effectivement de livres. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu notre guide pour CO2 Mon Amour, pour cette fête de la nature. On va préciser un petit peu les lieux. On est en direction de Cassis et on va donc vers les Calanques, vers la Gardiole, vers le massif du Puget, c'est ça ?
Exactement, on est entre Marseille et Cassis, dans ce merveilleux site des Calanques, qui nous montre tout, qui aujourd'hui nous expose toute sa grandeur et sa majesté, malgré un ciel un petit peu gris.
Alors, on parle de micro-paysages et aussi de grandes étendues. Alors, faites-nous bien, effectivement, ce contraste et racontez-nous les couleurs, les senteurs et peut-être aussi les sons que vous avez autour de vous.
Alors, les couleurs, habituellement, les calanques sont bleues, blanc, vertes, bleues comme le ciel et la mer, blanches comme les roches calcaires et puis vertes comme la végétation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elles sont plutôt grises, blanc, vert. Mais ce gris, c'est des nuages, c'était de la pluie, et donc ça nous a permis d'avoir un vert très différent, avec des verts tendres, des jeunes pousses, et la garrigue a grandi ces derniers jours, et c'est très beau. Par rapport à tous ces vastes paysages que l'on a sous les yeux, c'est d'autant plus vaste que comme c'est une forêt, il y a peu d'arbres. Le regard manque d'échelle. Mmh. Donc on a l'impression d'être dans un paysage immense et puis on se rapproche assez rapidement. Ça, c'est toute la grandeur des calanques. Et ensuite, quand on s'arrête, quand on regarde, entre les roches, poussent des petits arbustes, des chênes kermès, des micro-paysages, des choses. On pourrait rester assis pendant des heures à contempler plein de toutes petites choses.
Mais vous adorez marcher, donc évidemment, on monte, on descend. Où en est-on de la protection des calanques aujourd'hui?
Les calanques sont un milieu très, très fragile, puisque pendant tout l'été, il règne une grande sécheresse, fragile aussi par rapport au feu. Donc, il ne s'agit pas d'interdire les calanques tout au long de l'année. La pénétration du massif est limitée au mois de juillet et août, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Autrement, les calanques sont ouvertes au public. Et à partir de ce moment-là, il faut bien évidemment être très, très prudent, protéger les calanques. Dans les calanques, on a tous les bruits. Aujourd'hui, on a le vent. En été, on aura les insectes. Par contre, le bruit des branches d'arbustes sur les vêtements, on ne doit pas l'entendre, puisque normalement, on ne sort pas des sentiers.
D'accord. Et lorsque vous parlez de garrigue à peau de léopard, qu'est-ce que c'est?
Ah, ben, c'est-à-dire que dans les endroits qui sont tellement secs, tellement exposés au sud, avec une pente qui expose la végétation directement au rayon du soleil, la végétation ne parvient pas à couvrir toutes les roches. Vous savez que quand il y a la forêt, par exemple, a brûlé, il n'y a plus que des roches, bon, petit à petit, elle va naturellement recoloniser. Et là, dans les endroits où vraiment c'est trop sec, elle n'y parvient pas. Donc, elle forme des petites taches. Et vu de loin, on a l'impression d'un pelage de léopard, c'est très joli.
Mais écoutez, un grand merci à vous, James Gourier, hein, donc, de nous avoir adressé, on va dire, cette photo sonore, puisque donc, vous étiez à la fois reporter Terre Sauvage et reporter CO2 Mon Amour. Merci à Claudine Lapersonne et Antoine Biossa qui étaient aujourd'hui à la technique. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter, Jean-Pierre Raffin, je sais pas, pour cette nature demain, que l'on prenne en compte dans le Grenelle de l'environnement aussi un peu ces fameux corridors biologiques, hein, et
On peut souhaiter d'autres fêtes de la nature, et comme me disait quelqu'un, et pourquoi une seule fête dans l'année, alors que la nature, elle est là en permanence, elle est tout le temps. Il faut justement prendre le temps de la regarder pour la fêter. Et puis, ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Grenelle de l'environnement prenne réellement en compte la nécessité de cette trame verte, c'est-à-dire des points de passage
et qui soient opposables aux autres aménagements.
Et qui soient opposables aux autres aménagements. Sinon, une fois de plus, la diversité biologique sera traitée au second.